Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation, Arnaud Bertina.
Deuxième épisode.
Paru en 2004, Pura vida est sous-titré Vie et mort de William Walker. Du nom de cet aventurier américain, né en 1824, que la lecture des œuvres de Lord Byron et la geste de Simon Bolivar amèneront à sillonner l'Amérique centrale à la recherche d'une conquête héroïque. L'héroïsme, affirmait-il dans un discours, l'héroïsme est la forme supérieure de l'art.
Victor ne se lassait pas de ces vies où l'héroïsme avait été défait par une forme d'idiotie ou de médiocrité, laissant toute la place à une mélancolie dévastatrice. Alors ce soir-là, au comptoir de l'Antojitos, je lui ai raconté pour la seconde fois le premier échec militaire de William Walker. Comment, droit dans ses bottes, les deux pieds posés sur sa terre de Sonora, il se dit que l'exploit est assez beau, déjà, pour ne pas insister. Il rebrousse chemin vers le Pacifique et se soumet aux autorités nord-américaines près de San Diego le 8 mai 1854. Lui et ses 34 baroudeurs rescapés sont accusés d'avoir enfreint la loi de neutralité conclue avec le Mexique. Il rédige l'acte de reddition et le signe « William Walker, président de la République du Sonora ».
En moins d'un an, le petit jeune homme en redingote noire s'est déchiré de l'intérieur. Il est toujours cet enfant calme et timide de Nashville et il est devenu le redoutable aventurier William Walker. Il a le regard halluciné des fous, des conquérants.
En même temps, est-ce que tout le monde n'avait pas ce regard-là, en Californie, dans ces années-là?
Ouais. Depuis qu'on y a trouvé de l'or, tous les bois sans soif des tavernes de l'Est, tous les dentistes interdits d'exercice et les fermiers fauchés, tous regardent le soir vers l'ouest. Derrière les longues traînées cerises, ils voient le soleil en fusion verser son minerai flamboyant dans le creuset des mines. Mais aucun cheval d'acier ne lance encore ses fusées grises au-dessus de la prairie. Aucun chemin de fer ne file en fermeture éclair sur le désert, ni ne serpente parmi les neiges roses et les pins des rocheuses.
Bon, bref, à l'époque, aucune ligne ne traverse encore le continent d'est en ouest.
Si bien que les esprits sont en ébullition. Il y a les chercheurs d'or et ceux qui voient la possibilité de faire du fric avec la folie des chercheurs d'or. Et William Walker n'est pas en reste.
Mais monsieur Cole, je vous parle d'une année de travaux, c'est tout.
Mon cher Walker, ça ne suffit pas. Il faut aller plus vite. Le détour par le détroit de Magellan est interminable, et le filon pourrait bien s'épuiser entre-temps. Si nous voulons profiter de cette folie qui s'est plantée dans la tête des gens, il faut tracer une voie qui permette d'aller plus vite, et il faut la tracer maintenant, vous m'entendez? Parce que, je ne sais si vous vous rendez compte, William, mais enfin, les grands vapeurs de Vanderbilt achemine les passagers de New York jusqu'au Nicaragua, San Juan del Norte. Là, il change de bateau, il remonte le fleuve San Juan sur 200 kilomètres. Oh, pour être beau, c'est beau. Les eaux vertes et or du Rio qui rendent la voûte végétale encore plus sonore, des oiseaux de toutes les couleurs s'enfuient dans les arbres, des fleurs géantes, des bancs de sable blanc. Mais quel sport! Il y a ces rapides à franchir par les berges. Il y a... William, vous me suivez?
Je vous suis, je vous précède même. Votre idée, c'est passionnant.
Des vapeurs à aube leur font ensuite traverser le lac Nicaragua dans toute sa largeur jusqu'à la Bahia de la Virgen. Et les 20 derniers kilomètres qui séparent le lac de l'océan Pacifique, ces voyageurs les parcourent à dos de mule ou en diligence. Vous parlez d'un périple. Du reste, ce Vanderbilt le sait parfaitement. Regardez. C'est le journal de lundi. Il vient de signer, avec le gouvernement de Nicaragua, un contrat d'exclusivité pour le percement d'un canal. Oui, un canal. Puis il y a cet autre projet, un canal à Panama. Projet stupide, ça ne marchera jamais. Le Nicaragua offre l'élévation la plus faible entre l'Arctique et le Cap Horn. 45 mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. C'est au Nicaragua qu'il faut creuser, Vanderbilt a raison. De toute l'Amérique centrale, c'est le chemin le plus court. Seulement 20 kilomètres entre la rive ouest du lac Nicaragua et la côte pacifique. Il est aussi moins cher et plus sain que la voie du Panama. pas de fièvre tropicale ici. Bon, je vais déjeuner, nous continuerons tout à l'heure.
Le Nicaragua sera bientôt le carrefour de l'Est et de l'Ouest américain. Le point de jonction des Amériques du Nord et du Sud. Le passage obligé entre la Chine, le Japon et la vieille Europe. Le prochain centre du monde. Celui qui s'empare du Nicaragua devient le maître du monde.
Ce type était perçu. Mais quelle folie, splendide quand même.
Tu as trop bu, Victor, je te raccompagne.
Certainement pas. Je n'ai pas besoin d'une gouvernante.
Il est 9h. Regarde, le soleil est déjà haut dans le ciel.
Ton hôtel. Tu vois, c'est moi qui t'ai raccompagné. Adios.
Adios.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je suis désolé, votre chambre n'est pas prête.
Ah, mais c'est pas grave, je vais redescendre tout de suite. Donnez-moi la clé.
Oui. Voilà, monsieur.
Merci.
Ça va aller, monsieur ? Bonjour, Seigneur. J'ai bientôt fini, je me dépêche.
Non, non, je ne veux pas vous bousculer. Je vais prendre mes papiers et mes carnets et aller travailler en bas. Terminez tranquillement.
Tous ces papiers, vous êtes journaliste ?
Je rassemble des informations. L'histoire. William Walker, l'Américain, vous connaissez ? Un aventurier qui a voulu s'emparer du pays.
L'Amérique ?
Non, ici.
Le Nicaragua ?
Oui.
Alors ça c'est drôle, parce qu'ici tout le monde échangerait les États-Unis contre le Nicaragua.
Oui, Alina a raison. Et à l'époque déjà, les États-Unis aimantaient les corps et les esprits. Peut-être était-il donc possible de voir dans ce mouvement, à rebours des forces du temps, le signe avant-coureur d'échecs retentissants et ridicules. S'il deviendra, soutenu par Byron Cole, président d'un Nicaragua très divisé, William Walker ne parviendra pas à se maintenir à la tête de l'État.
Et il a réussi ?
Une année seulement.
Nous devons convaincre les grands propriétaires du Sud qu'ils transportent ici leurs esclaves et qu'ils asservissent les Indiens Miskitos et Garifunas. Le tabac, le coton, tout cela poussera ici au Nicaragua. On imaginera même un certain type de fermage ou de concession pour les mines d'or et de cuivre.
De l'or ?
On le dira, on le fera imprimer, ça les fera venir. Tout cela, c'est le destin manifeste en marche. C'est évident, la supériorité de la race blanche.
Et la canne à sucre, et toutes les terres vierges du centre.
Et surtout le canal, le percement qu'il faut mettre en chantier. Pour cela, nous allons tout d'abord résilier le contrat qui lie le gouvernement à la compagnie des vapeurs de Vanderbilt. Lui, il faut absolument l'éloigner.
Mais cela ne doit pas vous impressionner, Alina. Ses contemporains du Sud avaient envie de croire en lui, mais ceux de New York, par exemple, le prenaient pour un guignol. Regardez cette photocopie. 1850. Le New York Tribune. Leur titre est assez clair, non ?
Le Don Quichotte de l'Amérique centrale.
Avec la disparition des bateaux de Vanderbilt, Walker a scié la branche sur laquelle il était assis. Son approvisionnement en hommes et en armes est menacé, au moment même où le président du Costa Rica lui déclare la guerre, au moment où il achemine des troupes vers la frontière sud du pays.
Alors que tout le monde sait qu'il ne faut jamais faire deux choses en même temps.
Tu as raison, Alina. Mais William Walker n'est pas un stratège. C'est un salaud, comme tant d'autres, un aventurier. Un agité qui sème la mort partout, et d'abord autour de lui. Qui finira dans la jungle, 3 ans après avoir été un éphémère et douteux président de la République, en compagnie d'une 30aine d'hommes seulement, ivres comme lui d'un rêve anéanti, le sien devenu le leur, courant au hasard, des branches leur fouettant le visage, les mains crispées sur leurs armes. On est en 1860. Depuis 6 semaines qu'ils sont en fuite, la boue retient à chaque pas leurs bottes plus lourdes. Leurs chevilles se tordent aux racines gluantes. Parfois l'un tombe et supplie, mais on l'abandonne. Les yeux exorbités, veinés de rouge, ces vaincus détalent devant une armée dont les tirs les rabattent vers un point de la forêt qu'ils ignorent. Troupeaux de mercenaires traqués et affamés qui découvrent un soir qu'on les poussait ainsi contre la rive d'un fleuve infranchissable. quittant la forêt, haletant, couvert de vases, de sang. Les plus valides courent encore vers ce qui paraît être un ancien fortin ou un groupe de cahutes enfouis sous la végétation obscure. Autour, ce sont des eaux jaunes et bourbeuses emmêlées de branchages où crient des perroquets apeurés. Au-dessus, les longues traînées oranges qui écorcent le ciel cendreux. Et devant eux se dresse un campement à l'abandon. À l'abri des palissades en rondins vermoulus et mangés de lianes, les survivants peuvent se compter pour la première fois depuis 6 semaines. Partis à 65 de Trujillo, ils ne sont plus que 31 à panser leurs blessures d'un linge sale, à aligner sur leur capote les armes et les munitions détrempées. À leur tête, William Walker, blessé à la jambe, inspecte ses combattants qu'il connaît à peine. Seuls 5 ou 6 sont des vétérans de ces campagnes du Nicaragua. Il abandonne à son chef d'état-major l'organisation d'un siège impossible. Les hommes surveillent dans la nuit les grands yeux d'or des fauves ou des soldats honduriens. Bientôt, dans quelques heures, à l'aube où naissent les mirages, l'armée lancera son assaut.
William Walker, petit jeune homme boitillant, traîne sa gloire et son orgueil fracassé au fond d'une des baraques.
Son dernier palais.
J'imagine qu'en entrant, c'est-à-dire à l'instant pour nous de l'abandonner à son sort 10 fois mérité, il va déranger un tapir ou un tamanoir qui cherchait à se protéger de la pluie tropicale.
Qu'est-ce qu'un tapir vient faire dans cette histoire?
À ce moment-là de son histoire, une panthère serait incongrue. Il me faut un animal bas de plafond, presque rampant. Walker arme son pistolet. C'est le 2 septembre 1860.
Après tous ces échecs, demeure tout de même, au bout de 7 ans de combat, l'excuse et l'héroïsme, sans doute, d'avoir tenté l'impossible. On pourrait lui reconnaître ça, non? Après toutes ces opérations à droite, à gauche, en Californie, au Mexique, au Nicaragua, il connaît maintenant l'endroit de l'Amérique centrale où va s'achever sa déroute.
Ça, oui. De tous ces pays qu'il aura mis à feu et à sang, ramassés sur une bande de terre pas plus grande que la France, il sait que son cadavre pourrira quelque part dans la région de Gracias a Dios, au nord-est du Honduras. Mais ses renseignements sont incomplets, tu t'en doutes bien. Il ignore par exemple le nom de ces eaux sombres et limoneuses au milieu de la jungle. Ce sont celles du Rio Tinto.
Et William Walker va mordre la poussière, définitivement.
Mais à sa façon, il aura entretenu le rêve de Bolivar, dans une version frelatée, et l'idée de révolution aussi, dans des pays qui sauront en faire quelque chose. Au Nicaragua, le général Sandino saura en faire quelque chose dans les années 30, et les sandinistes des années 70 aussi. Parfois, les connexions sont ténues, mais elles existent. Le sang circule. Le père Ernesto Cardenal, par exemple, qui fut un ministre sandiniste, ce qui lui attira les foudres du Vatican, compte un grand-père ou un grand-oncle, je ne sais plus, parmi les compagnons de William Walker. Il acceptait de me recevoir, il me fallait donc un taxi. Le réceptionniste de l'hôtel Morgut a appelé un de ses amis, et Manuel est arrivé. Un grand gaillard au sourire de vendeur d'aspirateurs défectueux.
Bonjour, señor. Buenos días.
Buenos días.
Damitas de 15 años? Muy cerca. Vous cherchez des filles? Des jeunes? C'est tout près.
Non, merci, Manuel. Il me faut un taxi, pas un proxénète.
Proxénète? Quel mot, señor. Quel mot. Je ne veux que votre bonheur.
Comme tous les proxos, oui.
Non, certains veulent votre argent, seigneur. Votre argent.
Je n'avais pas envie de prolonger cette discussion sur les mérites comparés des écoles philosophiques au sein du proxénétisme entre les tenants de la ligne idéaliste et les cyniques de la ligne pragmatique.
Il me faut un chauffeur qui me transporte dans Managua, où je dois rencontrer plusieurs personnes, dont un prêtre.
Madre de Dios!
Manuel balance un dernier glavio par la portière et dépose sur le tableau de bord, près d'une effigie polychrome de la Mère de Dieu, l'adresse de la Casa de los Tres Mundos, où Ernesto Cardenal a proposé de me recevoir. Mais il n'hésite pas une seconde quant à l'itinéraire. Cardenal est si célèbre ici que chaque taxi connaît son adresse.
Le père Cardenal est une star dans le monde entier. Est-ce que vous n'avez pas vu quand Jean-Paul II a refusé de lui tendre sa main pour que le padre lui baise l'anneau? Les images ont été vues partout dans le monde, sur toutes les télés. Et comment il s'est relevé, au lieu de continuer à se faire engueuler. On en est très fiers à Managua.
En quelle année cette altercation avec le pape?
En 1983. Vraiment, ça ne vous dit rien?
En 1983, Manuel, je vivais dans l'état du Kwara, au nord du Nigeria, où les journalistes sont musulmans et ne s'intéressent pas beaucoup aux disputes théologiques des Roumis.
Je me suis abstenu d'expliquer à mon chauffeur qu'en outre, je n'étais pas un spectateur très assidu des apparitions du vieux spectre blanc. Cardenal m'intéressait autrement plus. Lui qui avait fondé au début des années 60, très peu de temps après avoir été ordonné prêtre, une communauté paysanne sur les îles de Solentiname, tout au sud du lac Nicaragua, près de la frontière du Costa Rica. Il y prêchait une lecture subversive des évangiles et comparait la situation nicaraguayenne à la Palestine du 1er siècle. Le dictateur Somoza figurait Hérode et Pilate l'ambassadeur des États-Unis. Les paysans de Solentiname, impressionnés, avaient aussitôt rejoint la lutte armée, le Front sandiniste de libération nationale que venaient de fonder Tomás Borges et Carlos Fonseca. Et Ernesto Cardenal avait coiffé le béret noir des commandantes.
Oui, Max et Jésus. Et pourquoi cette rencontre avec Cardenal?
Je veux rencontrer certains sandinistes pour les écouter sur William Walker, leur parler de mon projet de livre et noter leur réaction. Je suis en train d'écrire un bouquin sur l'histoire de l'idéal révolutionnaire.
Ah tiens, vous, ce n'est pas le scandale de la piñata qui vous intéresse. Tout le monde ne parle que de ça ici.
Défilé de petits commerces assez difficilement identifiables au bord de la route, puis une grande station-service toute neuve avec supermarché intégré, derrière ses deux palmiers mazoutés, ivres d'essence et de soleil. Volcan ocre et sienne à l'horizon verdâtre. Je laisse glisser Managua sur la vitre à ma droite. Des eucalyptus poussiéreux, des poteaux électriques inclinés où pendent de longues barbes de mousse espagnole, des portraits de Che Guevara coiffés du béret noir étoilé, les sourcils froncés, fixant l'horizon. Oui, Manuel a raison. Tout Managua ne parle que de ce scandale immobilier impliquant d'anciens ministres d'Ortega et Ortega lui-même, qui, avant de quitter le pouvoir, se seront servis, se seront attribués des appartements. Ernesto Cardenal n'est pas impliqué. Sergio Ramírez non plus, l'écrivain qui fut aussi ministre. Mais certains de leurs plus proches compagnons de route, si. Un soir de février 97, quelque temps après avoir rencontré Cardenal, je me suis retrouvé dans la maison de Ramírez. Une grande maison tout en bois, aux murs décorés de masques effrayants, de dieux indiens multicolores, que portaient les muchachos sandinistes la nuit, à l'époque de la guérilla urbaine. Assis sur la terrasse, devant une grande table en bois, Ernesto Cardenal riait aux larmes en écoutant les plaisanteries du poète Luis Rocha, un bras replié sur sa poitrine, agité de soubresauts, la tête inclinée sur l'épaule, comme un très vieil enfant aux cheveux blancs. Les 5 ou 6 hommes présents chez Sergio Ramírez étaient en partie ceux qui dirigeaient le Nicaragua sandiniste.
Il faut rappeler à notre ami français qu'à l'époque, une attaque armée des États-Unis paraissait inévitable.
C'est vrai. Il y avait les menaces permanentes de Reagan et les raids de la Contra armés par la CIA qui préparaient, on en était sûr, l'assaut final.
Un équivalent de la baie des cochons, peut-être, mais en mieux.
Il y a longtemps que cet assaut final n'est plus d'actualité. Depuis des années, le Nicaragua a quitté les feux de la rampe et rejoint les obscures coulisses de l'histoire provinciale du monde. Alors quoi? Rassemblés sur la terrasse de Sergio Ramírez, qui vient d'échouer aux élections présidentielles, à la tête d'une faction sandiniste plus intègre que la branche historique, ces révolutionnaires que leur honnêteté a politiquement vaincus, ces poètes parvenus au pouvoir par la lutte armée et qui ont décidé il y a 10 ans de respecter le verdict des urnes, commentent la presse du jour en se passant des cubes de fromage et des noix de cajou luisantes, en regardant s'écrouler le grand soleil rouge derrière le mur d'enceinte.
Il ne faut pas regretter cette scission du mouvement. C'est le scandale de la piñata qui en est responsable, n'inversons pas les rôles. Pour nous, créer le mouvement rénovateur sandiniste était une nécessité. Nous n'avons pas réussi à remporter les élections présidentielles, d'accord. Ça n'invalide en rien les choix que nous avons faits. Vous en doutez, c'est insultant. Nous avons eu raison d'être honnêtes et de nous séparer des bandits, et peu importe que cela nous ait coûté les élections.
Les choses ne sont pas si simples. Tu as lu cet entrefilet de la tribuna qui annonce l'exil volontaire à Madrid de Sergio et d'Ernesto? On a perdu les élections et on s'enfuit.
Sergio Ramirez avait accueilli la rumeur d'un sourire et d'un haussement d'épaule, en continuant d'avaler des cubes de fromage. Ernesto Cardenal avait froncé les sourcils, tout à coup grave et triste. La tête inclinée sur la poitrine, en un geste d'abattement, il avait affirmé, l'index dressé, ne plus pouvoir survivre ailleurs qu'au Nicaragua.
Sobre vivir. C'est tout ce qu'il nous reste à faire.
Puis tous avaient regagné leur voiture garée dans la rue de l'autre côté du mur d'enceinte, certains tirant de larges bords approximatifs à travers le parc, avec la porte du jardin en ligne de mire et sa lampe allumée comme un fanal à l'horizon. J'avais appelé un taxi, à l'arrière duquel je m'étais demandé jusqu'à quel point je pouvais admirer ces hommes qui continuaient à croire que les phrases imprimées pouvaient encore peser sur l'histoire du monde. Et j'étais allé prendre un dernier verre au bar de l'Antojitos en hommage à ces révolutionnaires dont l'une des premières décisions, dès la prise du pouvoir, avait été la création du quotidien Barricada.
C'était
Pura Vida, Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Deuxième épisode.
Avec
Vincent Schmitt,
le narrateur,
Charlie Nelson,
Victor,
Philippe Bautier,
William Walker,
Alain Christie,
Byron Cole,
François Perrache,
le réceptionniste,
Françoise Cousin,
Alina,
Manuel Hulois,
Manuel,
Éric Aymon, Loïc Pichon, Pierre-Yves Desmonceau,
les convives de Sergio Ramirez,
Emiliano Suarez,
Ernesto Cardenal
et Marina Moncad, Paola Cordova, Olivier Peigné. Bruitage,
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire,
Emmanuel Chevrière.
Équipe de réalisation,
Éric Villenfin, Mathieu Tourin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand.
Pura Vida, Vie et mort de William Walker, de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil. Hasta mañana.
À demain.